France Culture.
À voix nue. Cette semaine, Simone Douek s'entretient avec Francis Allais. 3. La condition tropicale. Francis Allais, depuis le début de ses entretiens avec vous, nous vous suivons sur le terrain comme il se doit pour un botaniste. Et il faut dire que vos aventures, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas, ont aussi fait de vous une sorte d'explorateur, un peu à l'image des naturalistes ou des botanistes des 18e et 19e siècles que vous aimez bien et dont vous avez aimé d'ailleurs à réhabiliter le travail. Bon, des gens comme Jussieu, La Condamine, Pierre Poivre, Bonplan, Darwin et je ne cite évidemment que les plus connus. Et c'est à force de fréquenter les tropiques, de grimper aux arbres de ces basses latitudes, d'y découvrir, comme vous nous l'avez raconté hier, la richesse de la canopée, de côtoyer là-bas bien sûr les hommes et leur mode de vie. C'est donc avec toutes ces expériences réunies que vous avez nourri en vous une réflexion autour de ce que vous avez appelé la condition tropicale. La condition tropicale, c'est d'ailleurs le titre du tout dernier livre que vous avez écrit. Et alors aujourd'hui, nous allons voir le botaniste se transformer tour à tour en astronome, en climatologue, en géographe, ethnologue, anthropologue, historien, économiste. Tout cela, Francis Allais, pour faire un constat et pour éclairer à votre manière les paramètres qui définissent cette situation particulière des tropiques. De quoi parlez-vous, Francis Allais, lorsque vous évoquez la condition tropicale ?
Il y a une chose que je voudrais dire en premier, c'est que pour moi, les tropiques, les régions tropicales de la Terre, ça a été une formidable expérience esthétique. De très loin, ce que j'ai vu de plus beau sur cette planète, c'est entre les deux tropiques. Les grandes savanes d'Afrique avec les animaux et les feux dans le lointain, le récif de corail de la mer de Chine, les canopées amazoniennes, voilà, tout ça, c'est des choses irremplaçables de mon point de vue.
Et tout ça, ça se situe donc entre 23 degrés au nord et 23 degrés au sud.
Exactement. Alors voilà, la question que je me suis posée presque dès le premier jour, c'est pourquoi est-ce que les gens sont pauvres ? C'est une expérience très curieuse. En Europe, on le sait bien, dès qu'on franchit le tropique, que ça soit en venant du nord ou en venant du sud, on quitte les régions riches, comme celle où nous sommes ici, et on arrive dans des régions pauvres. Les gens sont économiquement pauvres. Attendez, je ne parle pas de pauvreté intellectuelle, spirituelle, artistique, etc. Pas du tout. Je parle de, voilà, de l'économie. L'économie ne va pas bien. Et ça s'est vérifié tellement de fois dans tellement de pays. Il arrive un moment où vous vous dites, mais il doit y avoir une raison globale à tout ça. Alors ça m'a beaucoup intéressé. Ça fait 40 ans que je m'intéresse à cette question.
Et vous vous êtes mis donc à chercher, à étudier, à remonter pour trouver des causes. Trouver des causes, c'est faire un constat, mais c'est aussi croiser les disciplines. C'est ça qui est intéressant quand on a dit que le botaniste devenait à la fois historien, économiste, etc.
C'est-à-dire que la réponse, je ne savais pas du tout de quel secteur du réel elle allait venir. Et vous allez voir qu'elle vient d'une partie du réel qui est tout à fait inattendue. Bon, mais d'abord le constat. Un point tout de même très intéressant, je voudrais en dire un mot, c'est les pays qui sont coupés en deux par le tropique, donc avec une partie tropicale et une partie tempérée. Eh bien, ils sont nombreux ces pays-là. Il y a le Brésil,
on cite un peu, voilà.
Il y a le Mexique, il y a l'Inde, il y a l'Australie, il y a la Chine, etc., etc. Il y en a presque une trentaine. Eh bien, il est absolument constant que la partie tropicale soit pauvre, économiquement pauvre, et que la partie tempérée soit riche, dans le même pays.
Donc la cause ne serait pas forcément en premier économique. Elle doit l'être aussi, mais...
En tout cas, d'une certaine manière, ça commençait à jeter un certain jour sur la question. Ce qui compte, c'est d'être dans les tropiques ou de ne pas y être. Remarquez que c'est très curieux, ce parallèle qui apparaît entre l'économie et les tropiques qui sont des lignes à définition astronomique. Attendez, vous imaginez ça ? Un parallèle entre l'économie et l'astronomie ? Ça paraît tout de même étonnant. Bon, donc j'ai commencé une enquête. Je me suis renseigné sur ce qu'avaient dit mes prédécesseurs et j'ai trouvé en gros deux sortes d'hypothèses. La première est à mes yeux haïssable. Malheureusement, elle est fréquente, elle n'est pas très souvent exprimée, mais on sent que les gens l'ont en tête. C'est tout simplement que les gens des tropiques sont nuls. Ils sont humainement nuls. Ils ont éventuellement de très grosses richesses, mais ils sont tout simplement pas capables d'en tirer parti et de le changer en une élévation du niveau de vie. C'est l'hypothèse raciste. Elle a beaucoup servi. Elle sert encore, même quand on ne l'exprime pas. Bon, celle-là, d'abord, elle me révulse, mais plus loin que ça, j'ai la certitude que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une question de personnalité. Il y a des gens brillants et des gens nuls partout. Voilà. Un autre groupe de réponses qu'on pourrait, si vous voulez, assimiler aux idées de gauche, l'époque du tiers-mondisme, il y a 20 ans, c'est de dire, ces pays-là, c'est normal qu'ils soient pauvres, puisqu'ils ont été, ils ont fait l'objet d'abord de l'esclavage, et puis de la colonisation, et puis c'est pas vraiment fini, ça continue, donc c'est normal qu'ils soient pauvres. Pour me débarrasser de ces deux hypothèses, bon, l'hypothèse raciste, c'est vite fait, l'hypothèse historique, je crois que la bonne solution, c'était de faire une approche historique du phénomène. Et on s'aperçoit qu'à certaines époques, les pays pauvres, c'était l'Europe. À l'époque de la guerre de Cent Ans, c'était pas brillant chez nous, mais c'était extrêmement brillant en Chine, et c'était extrêmement brillant en Afrique de l'Ouest. L'Empire de Ghana, l'Empire du Mali, c'est des réalisations extraordinaires.
Donc au niveau de la civilisation, de la culture.
Alors, absolument, c'était pas vraiment ce qu'on appellerait de l'économie, mais la culture était splendide, la civilisation était brillante, alors que chez nous, c'était vraiment la catastrophe. Pour toutes ces raisons, les deux hypothèses que j'ai dites, celle d'extrême droite et celle d'extrême gauche, ne me conviennent pas. Moi, je me dis qu'en tant que biologiste, j'ai la possibilité de proposer une hypothèse biologique.
Et vous vous êtes mis alors à étudier, enfin, point par point, depuis le début, enfin, depuis l'astronomie,
effectivement,
finalement,
il a
la
fallu...
situation de ce pays. Alors ça, il faudrait nous raconter
ne
quand même.
Ne sachant pas, effectivement, où résideraient les éléments de la réponse à la question que je me posais, j'ai commencé une étude complète des tropiques, effectivement, en commençant par l'astronomie. Qu'est-ce que c'est que les tropiques sur le plan astronomique? Bon, alors, en deux mots, vous savez que c'est la région où vous pouvez avoir le soleil au zénith, exactement à la verticale. Bon, je me suis intéressé également à... Non, mais attendez, à la géophysique, par exemple. Vous savez que vous pesez 2 kilos de moins quand vous êtes sous les tropiques? C'est curieux, c'est des choses comme ça, c'est lié à la force centrifuge, etc., etc. Je me suis intéressé au climat. Très intéressant, les climats, parce qu'ils ont, dans ces régions, des accidents climatiques, par exemple les cyclones, que nous n'avons pas ici. C'est quelque chose de très injuste, non? Les cyclones, ça tombe sur les gens pauvres, et les gens riches sont à l'abri. Enfin, c'est un des éléments du problème. J'ai regardé les sols, j'ai regardé les reliefs, la géographie, etc. J'ai consacré une bonne moitié de ce bouquin à une étude assez précise du milieu naturel. La vie m'a beaucoup intéressé. Bien entendu, parce que ça, c'est un truc que j'étudie moi-même depuis très longtemps. Les plus hautes diversités biologiques, de très loin, sont entre les tropiques. Et on est dans une époque où on se félicite d'avoir une haute diversité biologique, à juste titre. Mais ça n'empêche pas que de fréquenter au quotidien une très haute diversité biologique, ça a des revers. Les maladies dans les tropiques sont dues à cette interface avec la diversité biologique. Énormément de maladies, certaines épouvantables. C'est-à-dire, les gens des tropiques, ils ont nos maladies, plus les leurs, qui sont beaucoup plus nombreuses. Bref, la situation sanitaire, c'est aussi un des éléments de la réponse.
Oui, parce que la diversité, c'est les insectes porteurs de bactéries.
C'est les virus, c'est les bactéries, c'est les insectes, en effet, qui servent de vecteurs très souvent. Et puis tout un tas d'animaux, et puis des plantes aussi, des plantes dangereuses, des champignons toxiques, des choses comme ça. Bref, c'est pas si facile de côtoyer au quotidien cette biodiversité gigantesque. Mmh. C'est qu'il y a vraiment des poisons considérables, et même d'approcher ces plantes, sans même les avoir vues. Vous sentez tout d'un coup, je pense aux mansonilliers aux Antilles, ou aux glutas dans les îles de la Sonde, approcher ces plantes-là, c'est déjà désagréable.
C'est-à-dire, c'est une sensation, une odeur
Mais non, vous sentez rien.
Vous sentez rien.
Mais tout d'un coup, vous avez des plaques sur la peau et vous avez envie de vous gratter. Ça, c'est qu'il y a un gluta pas loin. Vous ne l'avez peut-être même pas vu, mais il est là. Enfin bref, c'est pas pour dire du mal des arbres, mais il y en a certains dont il vaut mieux se méfier. Bien, donc une hypothèse biologique pour rendre compte de tout ça. En tant que biologiste, je sais très bien que l'essentiel de la biologie est commandé par les variations de la longueur des jours, Ici, par exemple, nous sommes à 43 degrés de latitude.
À Montpellier,
Montpellier,
je le rappelle.
Oui, Montpellier. Mmh. On a des jours qui varient considérablement. En ce moment, ils sont courts, ils vont encore raccourcir un peu, puis ils vont rallonger. Et vous savez certainement que quand on est à l'équateur, ou dans les tropiques en général, les jours ne varient pas. C'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et ça ne change pas, ou ça change de quelques minutes, pas plus. Alors les plantes, je commence par les plantes. Tout dans les plantes est commandé par les variations de la longueur des jours. La croissance, la floraison, la fructification, etc. etc. Chez les animaux, c'est pareil. Un cas très connu, c'est les oiseaux. Chez les oiseaux, la variation de la longueur des jours conditionne la sexualité, la nidification, conditionne également les migrations. Quand les oiseaux émigrent, c'est pas qu'il fait mauvais, c'est que les jours ont atteint une durée qui leur indique d'avoir à partir. Les mammifères, c'est pareil, mais il s'y rajoute le contrôle de la territorialité, de l'agressivité. Il y a des choses intéressantes qui apparaissent dans les mammifères. Et puis, en allant encore plus proche de nous, dans les primates, on s'aperçoit que la sensibilité à ce qu'on appelle donc globalement le photopériodisme, elle augmente. Elle augmente avec le niveau d'évolution.
C'est-à-dire, Francis Allais, que nous serions encore plus sensibles au photopériodisme que...
Ben écoutez, il y a un consensus, il y a un consensus un peu autoproclamé que l'être humain est au sommet de l'évolution. Donc il est, par définition, le plus évolué. Si je suis la
par
logique...
Par contre, la culture et la civilisation font que nous ne le sentons peut-être pas forcément.
Alors, c'est évidemment ça la question. Est-ce que notre culture nous met, oui ou non, à l'abri d'une influence photopériodique? Ma position là-dessus, elle est très claire. Si nous avons un sens qui nous rend compte d'une difficulté, par exemple le froid ou le chaud, bon... On peut se battre. Si on le sait, parce qu'on a un sens qui nous le dit, on peut se battre. Et j'ai la plus grande admiration pour les capacités d'invention de l'être humain. On trouve une solution quand on est au courant des problèmes. La difficulté avec ce photopériodisme, c'est que nous n'avons pas de sens qui nous l'indique. Ça se fait tout à fait à notre insu. On ne peut pas se battre dans ce cas-là, puisqu'on ne sait pas contre quoi. Donc je crois que l'être humain est effectivement soumis aux influences photopériodiques de la même façon que les autres animaux. Alors sur le plan physiologique, c'est un peu compliqué. On a une glande au milieu du cerveau qui émet une hormone pendant la nuit. Donc la teneur dans cette hormone dans le sang, c'est un témoignage de la longueur du jour et de la nuit. Enfin bref, on a une espèce d'horloge interne qui nous renseigne. Alors... Comme l'homme a exactement le même équipement cérébral que les singes, que les primates, les autres primates, nos cousins, donc je vois aucune raison pour qu'il n'y ait pas d'influence photopériodique. Ça n'est qu'une hypothèse, hein. Je le présente comme tel. Je ne suis pas moi-même chronobiologiste, je suis incapable de mettre au point des expériences pour prouver ça. Mais j'ai le droit d'émettre des hypothèses. Qu'est-ce qu'on attend d'une hypothèse dans le domaine scientifique ? C'est qu'elle ne se heurte pas à des absurdités et qu'elle rende compte du réel. Eh bien voilà, il me semble que cette hypothèse-là, elle rend compte du réel.
Mais alors Francis Allais, comment ça se traduit finalement pour la personne qui vit au tropique, cette histoire d'influence photopériodique?
Effectivement, comment est-ce que ça se traduit dans les comportements quotidiens?
Eh bien, selon ce que vous avez remarqué au fond.
Oui, bien sûr, j'en ai remarqué. J'ai remarqué plusieurs comportements, types de comportements, qui pourrait fort bien recevoir une explication dans le photopériodisme. Excusez-moi, je ne veux pas vous choquer. Ça peut avoir des côtés choquants. C'est des pays où il n'y a pas de révolution. Révolution au sens qu'on donnait à ce terme en 1789. Est-ce qu'il manque de sujets de faire la révolution? Je prétends que non. Et quand vous interrogez les historiens au sujet des révolutions qui ont eu lieu dans nos pays tempérés, il y en a eu des quantités dans les deux hémisphères. Mmh. Quand on interroge les historiens, ils disent « Eh ben, on fait la révolution au moment de l'année où il fait chaud ». Et je me dis, s'ils ont raison, alors dans les tropiques, ça devrait quasiment être en permanence la révolution. Non, je pense que là, la photopériode s'y oppose. Et si on a fait la révolution en juillet 89, c'est pas une coïncidence. Je donne une longue liste de ces événements révolutionnaires qui apparaissent au moment où les journées sont les plus longues. Je vous rappelle que les tropiques n'ont pas de longues journées, puisque c'est toujours 12
journées égales.
Elles sont ni longues ni courtes,
voilà.
Elles sont,
12 heures,
disons,
c'est ça, oui.
Moyennes. Voilà. Donc, nous autres en Europe, quand nous vivons devant une situation d'une injustice insupportable et qui se prolonge trop longtemps, nous savons très bien qu'on a cette solution. Tout casser, c'est peut-être moralement discutable, mais ça fait évoluer la société. Un autre point, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas dans les tropiques de recherche scientifique fondamentale. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, j'ai fréquenté des dizaines de laboratoires dans ces régions. Alors, de temps en temps, je tombe sur des personnages tout à fait excellents.
Et vous avez travaillé certainement avec des chercheurs tropicaux.
Bien sûr, j'ai collaboré avec eux. Mais ils sont les premiers à reconnaître que les pays où ils habitent ne sont pas propices à la recherche scientifique.
Fondamentale, en tout cas.
Oui, parce qu'effectivement, ils font des travaux de recherche et ils ont des résultats. Mais ce n'est pas ce qu'on appellerait de la science fondamentale. Voilà. Or, tout le monde sait bien que sans recherche fondamentale, l'économie est bloquée. Voilà encore une piste.
Et là, on est toujours dans le photopériodisme.
Oui.
Donc. Mais
oui.
Francis Allais, est-ce qu'avec ces hypothèses, hein, je sais que vous émettez des hypothèses.
Ah,
hein.
Je tiens à ce terme, parce
bien
que
sûr.
Je n'affirme rien.
Mais est-ce que ces hypothèses ne sont pas un peu déterministes?
Attendez, la question du déterminisme me va droit au cœur. Seulement, j'ai les sciences humaines actuelles sont terriblement opposées à toute trace de déterminisme. Depuis quand sont-elles ainsi? Depuis les années 40, l'époque nazie. Alors c'est vrai qu'il y a eu une idéologie dans différents pays du monde, c'est pas seulement l'Allemagne, il y avait la même aux États-Unis à l'époque, il y a eu une idéologie déterministe qui évidemment a éloigné les gens de ce type de raisonnement. Je me dis, bon Dieu, qu'il y a un moment où il faut se débarrasser de ce genre de choses. Je vais pas me laisser... Voilà, attendez, comment je pourrais dire ça? C'est pas ces vieux idéologues nazis qui vont me dire maintenant ce que j'ai le droit de penser ou pas le droit de penser. Je ne me considère pas moi-même comme déterministe. Par contre, j'ai une conviction très forte. C'est que la crise écologique actuelle, à laquelle nous sommes tous participants, ça provient d'un refus de se plier aux conditions du milieu. Si vous êtes un élément de la nature, vous la détruisez pas. Je crois que le refus systématique de toute trace de déterminisme, ça mène à cette espèce de supériorité de l'homme au-dessus du milieu naturel. Et ça, on en paye les dégâts actuellement. Alors je suis un peu comme Lévi-Strauss, excusez-moi, c'est très, très présomptueux de dire ça, mais j'ai relu dans Lévi-Strauss, il est lui aussi partisan d'un certain niveau de déterminisme. Je ne suis pas prêt à me laisser manipuler par les événements physiques qui m'entourent. Mais si vous regardez la question des tropiques, vous verrez qu'il y a quantité de choses qui ne peuvent se résoudre que comme ça.
D'ailleurs, puisque vous me parlez de Lévi-Strauss, juste au hasard, un passage pris, je crois que c'est au Mato Grosso, et il décrit les Nambiquara, et il dit que toutes leurs richesses, au fond, ce sont de pauvres objets dans les hottes emplies qui constituent toutes leurs richesses terrestres. Oui. Donc je lis ces quelques lignes parce que ça ressemble effectivement à votre sentiment. Ou encore, il se sent pris de pitié et d'angoisse devant le spectacle de cette humanité si totalement démunie, écrasée, semble-t-il, contre le sol d'une terre hostile et par quelque implacable cataclysme. Alors, je ne sais pas si c'est des sentiments... Là, il écrit ça dans les années 30, je crois. Je ne sais pas si ce sont des sentiments que vous avez eus.
Mais est-ce totalement. Mais attendez, devant des spectacles comme celui-là, qui pourrait avoir un autre sentiment? Ces gens sont pauvres par rapport à nos critères à nous. Vous remarquerez d'ailleurs, et Lévi-Strauss le savait très bien, que les objets dont il parle sont des objets magnifiques.
Absolument.
Donc
ce
n'est pas une pauvreté dans le domaine esthétique, culturel.
Et puis
culturel.
Il parle aussi des étreintes des couples et qu'il dit qu'il
ouais.
y a des
ça
rires et qu'il y a... Et
ça donne envie de vivre là.
Voilà.
Oui, exact.
Oui.
Oui. Quoi qu'il en soit, si vous mesurez la richesse ou la pauvreté selon nos critères de l'économie contemporaine, vous allez voir qu'ils sont tous pauvres, tous pauvres. Voilà.
Alors on en était à ce déterminisme.
J'en rajoute un autre, attendez. J'ai étudié l'histoire des colonisations. On peut dire que tous les pays de la zone tempérée ont été colonisateurs. Et on peut dire que tous les pays de la zone tropicale ont été colonisés. Parfois, il y a eu 5 ou 6 colonisateurs successifs sur le même petit lopin de terre. C'est une histoire atroce. Hein. Je suis un adversaire furibond de la colonisation. Ça a été une erreur énorme. Mais alors, quoi qu'il en soit... il y a quelque chose qui m'apparaît avec force, c'est qu'aucun pays tropical n'a colonisé une région tempérée. Ça, c'est une constante. J'ai quelques petites exceptions, toutes antérieures au XVe siècle. Mais là, je crois pouvoir être formel, ça n'existe pas. Et ça aussi, vous voyez, les conquêtes, les prises de possession au loin, ça semble bien être sous le contrôle photopériodique.
Alors, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est la notion du temps, non ? Par exemple, quelle a été à vous, votre Francis Allais, votre notion subjective du temps quand vous êtes au tropique ? Est-ce que c'est la même qu'ici ?
C'est une question très intéressante et assez compliquée, parce que vous arrivez dans les tropiques, vous commencez à discuter avec les gens, à travailler avec eux, à collaborer. Vous ne vous rendez pas compte au début que leur temps à eux n'est pas du tout le même que le vôtre. Le mien, j'ai amené avec moi mon temps européen, c'est-à-dire qu'il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir.
Le temps linéaire.
Le temps linéaire, le temps courant. Mais attendez, c'est d'une telle évidence que ça vous vient même pas à l'idée de penser qu'une autre conception du temps soit possible. Il a fallu beaucoup de réflexion et beaucoup de lecture. Et j'ai aussi écrit à Lévi-Strauss à ce sujet. Il est très très gentil, m'a répondu exactement ce qui m'a éclairé. Les gens des tropiques n'ont pas notre temps linéaire. Ils ont un temps tournant. Les choses se passent sur le mode de la répétition. Ça change tout. Attendez, qu'il y ait des échecs. Alors, dans le domaine de la coopération technique, industrielle, militaire, etc., ça ne m'étonne pas. Parce que si on ne se préoccupe pas du sentiment qu'ont nos interlocuteurs de la notion du temps, eh bien, évidemment, on court à l'échec. Voilà. Eh bien, tout ça, vous voyez, ça fait beaucoup. Ça se rajoute à la liste de ce qui peut être contrôlé par la photopériode. C'est donc ce facteur astronomique, le fait d'être dans la bande intertropicale, qui conditionne tous ces comportements par le biais de la photopériode. La solution était donc astronomique, vous voyez. On ne pouvait pas le deviner au hasard.
Oui. En tout cas, c'est votre hypothèse.
Oui, c'est ce que je propose. Ce n'est pas une hypothèse de droite, ce n'est pas une hypothèse de gauche. C'est une hypothèse fondée sur l'astronomie. Vous savez, on habite sur un astre. Il ne faut pas s'étonner que l'astronomie ait une influence sur nous.
Et donc, ce sont ces comportements, au fond, qui conditionneraient la misère, la pauvreté.
Si vous n'avez pas de recherche scientifique, si vous n'allez pas vous enrichir en mettant la main sur les richesses des autres, si vous avez un temps qui ne vous porte pas au progrès direct, mais plutôt au respect des traditions, eh bien, comment voulez-vous que l'économie se développe ? Ajoutez à ça que les climats sont parfois épouvantables.
Ils peuvent être très froids.
Ils peuvent être très froids, en effet. Si vous êtes dans les hautes Andes, il fait moins 14 chaque nuit. Oui, on a souvent dit que la chaleur était responsable de la pauvreté des gens des tropiques. Très bien, mais seulement il y a des pays tropicaux extrêmement froids. Si vous êtes sur le plateau abyssin à Addis Abeba ou si vous êtes à Quito, vous n'avez pas chaud. Même le matin, vous avez froid. Il faut vraiment un bon manteau. Voilà. Or, ces pays-là, ils sont encore plus pauvres que les autres. Ça permet d'éliminer le facteur température. Donc il faut chercher ailleurs.
Alors, Francis Allais, vous parlez donc de cette recherche fondamentale scientifique inexistante. Cependant, et je crois que c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait terminer sur cette condition tropicale, cependant, il y a... Bien sûr, une science. Il y a des chercheurs, mais il y a peut-être une conception de la science qui n'est pas la même, encore une fois, et qui est celle, au fond, du terrain, celle que les gens, au fond, ont en accommodement avec leur terrain.
La question de la science, ici et dans les tropiques, ça m'a beaucoup intéressé. C'est d'ailleurs très injuste, cette histoire, parce que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, hein. Attendez, je prends un exemple concret. C'est les tropiques qui ont inventé l'agriculture. Les tropiques ont inventé la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs et la mise en culture des plantes et la domestication des animaux. Mais ce n'est pas les gens qui ont fait ça qui reçoivent le prix Nobel. C'est Norman Borlaug pour des variétés améliorées de riz. Vous voyez l'injustice qu'il y a. Les phénomènes fondamentaux sont tropicaux. Et se trouvent couverts d'honneur les gens qui ont réalisé des épiphénomènes un peu marginaux. Voilà. Faut pas être méchant avec Norman Borlaug, c'est pas ça le problème. Mais c'est tout de même les vainqueurs, n'est-ce pas, qui décident de tout ça. Donc la science tropicale, elle est sous-estimée. Elle a pourtant un rôle énorme. Il y a des choses tout à fait admirables, j'en donne la liste.
Vous pouvez en donner un exemple ?
Ben, par exemple, l'industrie du fer. La possibilité de faire ce métal-là à partir de ressources souterraines, c'est l'Afrique, aucun doute là-dessus. Bien avant le moindre contact avec l'Europe.
Et parce que vous dites, enfin bon, je vous ai lu donc, et vous parlez presque à la fois d'un berceau scientifique, enfin ou culturel, et d'un conservatoire.
C'est vrai, mais là ça nous ramène au domaine de la biologie. Mmh. Les grands groupes animaux et végétaux sont nés dans les tropiques, mais il y a aussi dans la forêt tropicale la possibilité de laisser vivre des formes de vie assez improbables et qui n'auraient pas beaucoup d'autres chances dans d'autres endroits. Donc c'est aussi un conservatoire.
L'agroforesterie, par exemple.
Ah, l'agroforesterie, c'est pratique, c'est autre chose. C'est une pratique agricole, agronomique, que nous avons perdu de vue en Europe, qui existe encore, fort heureusement, dans les tropiques. C'est de la culture en trois dimensions. C'est-à-dire, les gens cultivent des arbres au lieu de cultiver, comme nous le faisons ici, des herbes. Ça donne naissance à des grandes agroforêts, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à de la forêt primaire. La réalité, c'est que les paysans, génération après génération, remplacent les plantes qui ne les intéressent pas ou qui sont éventuellement dangereuses par des plantes utiles. Et donc, vous avez une forêt de plantes utiles. Une fois que le système tourne, la seule activité, c'est la cueillette et de remplacer les arbres morts. Utilité extraordinaire, parce que les gens qui possèdent ces systèmes agroforestiers, ils sont dans un état d'opulence que je leur envie bien volontiers. Parmi les choses intéressantes, là, ça peut vous toucher ça, Simone, c'est les femmes qui dirigent ça, c'est pas les hommes. Les hommes, ce qui les intéresserait plutôt, c'est la monoculture à vocation industrielle. L'agroforêt, c'est pas du tout sa vocation. L'agroforêt, c'est la sécurité alimentaire, c'est la certitude d'avoir de quoi manger toute l'année pour toute la famille. Et ça remplit parfaitement ce but-là. L'agroforesterie, c'est passionnant. Il serait souhaitable que, en Europe, on revienne. Mais d'ailleurs, je suis assez optimiste, là. Je vois que ces idées-là progressent. On refait de l'agroforesterie maintenant, en France notamment.
Voilà, mais en tout cas, ce serait pour vous, Francis Allais, un des grands atouts, par exemple, des tropiques.
Ah ben, ça serait maintenant une inspiration venue des tropiques, effectivement.
C'était À Voix Nue. Simone Douek s'entretenait avec Francis Allais. Réalisation, Gilles Davidas. Demain, Éloge de l'arbre.